13h01 sur Bac FM 106.1. Bonjour à toutes et à tous. Jeudi 27 novembre 2025. Est-ce que vous aussi, vous avez l'impression que ce mois de novembre est interminable? On n'en voit plus le bout à Bac FM. Heureusement que notre département s'active pour nous proposer des belles soirées. J'en parle juste après le tour de l'info. C'est parti. On commence ce journal avec une nouvelle qui va vous rassurer, chers auditeurs. Le dernier membre présumé du commandant du Louvre a été interpellé. Stéphane Bern disait que ça mettait un coup au moral des Français, donc je sais pertinemment que je vous enlève du stress. Non, ne mentez pas, chers auditeurs, je sais que le sort des cadeaux de mariage de Napoléon Ier vous empêchait de dormir la nuit. Alors selon l'enquête, cet homme, arrêté le 25 novembre dernier, serait celui qui a quitté le musée avec le butin. 8 à 9 pièces de joyaux de la couronne, volées en moins de 8 minutes dans la galerie d'Apollon le 19 octobre dernier pour un préjudice estimé à 88 millions d'euros. Officiellement, c'est donc notre patrimoine qui a été attaqué. Mais si on s'approche un peu des vitrines, l'histoire devient un peu moins brillante. Diamants, rubis, émeraudes, or, une bonne partie de ces pierres vient des territoires colonisés ou surexploités, arrachés à des mines d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique latine, par des travailleurs pauvres pour orner les têtes couronnées européennes. Ces couronnes racontent autant la grandeur monarchique que l'extorsion fiscale des classes populaires et le pillage des anciennes colonies. On écoute tout de suite un extrait d'une consoeur pour le média et Edge Plus français sur ce sujet.
Ces bijoux sont pas vraiment issus du commerce équitable. En ce qui concerne la parure d'émeraude de l'impératrice Marie-Louise, cadeau de mariage offert par Napoléon Ier en mars 1810, il est possible qu'il s'agisse d'émeraudes minées par de la main-d'œuvre autochtone, exploitées par les Espagnols, probablement en Colombie. Les pierres de la couronne de la reine Marie-Amélie et de la reine Hortense viennent probablement d'Inde et de Colombie, et le diadème de l'impératrice Eugénie combinerait des diamants indiens, brésiliens et des perles du golfe arabo-persique ou de l'océan Indien. Bref, ces bijoux sont aussi un témoignage de l'exploitation coloniale au service des cours européennes, et pas juste un témoignage du savoir-faire français. Mais cet aspect ne semble pas intéresser les commentateurs invités sur les plateaux.
À Bac FM, ça nous intéresse. Alors, bien sûr, personne n'a envie que les pièces finissent fondues dans un garage. Mais au moment où on s'indigne pour les joyaux disparus, on peut aussi se demander à qui appartiennent vraiment ces trésors. Après les couronnes du Louvre, place à celle que les politiques rêvent d'accrocher à l'Elysée. C'est le journal des bonnes nouvelles, puisqu'accrochez-vous, chers auditeurs, Delphine Batho, ancienne ministre de l'écologie et présidente de Génération Écologie, a annoncé mardi sa candidature à la présidence de la République. Je vous vois sauter de joie d'ici. Elle rejoint ainsi la longue liste des prétendantes et prétendants pour 2027. Côté écologiste, il y avait déjà la patronne du groupe écologiste, justement Marine Tondelier, qui s'est déclarée en octobre. À gauche, François Ruffin s'est lancé avec son mouvement Debout, en se disant légitime pour représenter le camp social. Clémentine Autain, elle, se dit prête en cas de primaire unitaire. Du côté de l'extrême droite, Nicolas Dupont-Aignan a officialisé sa candidature au printemps, tout comme François Asselineau pour l'UPR. Toujours à l'extrême droite, Marine Le Pen continue de se poser en candidate naturelle malgré sa condamnation à l'inéligibilité en première instance, pendant que Jordan Bardella explique qu'il prendrait le relais si elle est finalement empêchée. Très à droite toujours, hein, Laurent Wauquiez dit clairement viser l'Elysée, et des figures comme le maire de Cannes, David Lisnard ou Xavier Bertrand se positionnent déjà dans la course. Résultat, si l'on additionne les candidatures assumées et les fameux « je me tiens prêt », on tourne déjà autour d'une bonne dizaine de noms, alors qu'on est déjà à un an et demi du premier tour, et ce sans compter les autres candidats plus ou moins officiels, hein, Jean-Luc Mélenchon, Édouard Philippe, Gabriel Attal, Raphaël Glucksmann ou Ségolène Royal, et voire Gérald Darmanin. Bref, la liste des candidats s'allonge beaucoup plus vite que celle des réponses concrètes sur le social, le climat ou le logement. Pendant que les prétendants à l'Elysée se multiplient, l'exécutif, lui, prépare l'autre grand chantier des prochaines années, remettre la jeunesse en treillis. Emmanuel Macron doit détailler ce jeudi en Isère un service militaire volontaire pour les jeunes de 18 ans dès 2026. D'après les premières fuites, hein, il s'agirait d'un engagement de 10 mois rémunéré entre 900 et 1000 euros par mois, avec un objectif d'environ 50 000 réservistes supplémentaires à l'horizon 2035, pour un coût pouvant grimper jusqu'à 2 milliards d'euros par an. Officiellement, le gouvernement parle d'envie d'engagement et de culture de défense, dans la continuité du service national universel, le fameux SNU qui est en voie d'extinction. Mais cette montée en puissance intervient alors que le budget des armées doit passer à 57 milliards d'euros en 2026, puis continuer d'augmenter pour rapprocher la France des 3,5% du PIB consacré à la défense. Ça, c'est la promesse à l'OTAN. Syndicats et collectifs antimilitaristes dénoncent une militarisation de la jeunesse et un dispositif pensé surtout pour gonfler une réserve low cost pendant que l'État taille dans la santé, l'éducation ou le social. Derrière ce service volontaire, beaucoup voyaient déjà la première marche vers le retour d'une conscription de marche de obligatoire. En filigrane, c'est un choix de société qui se dessine. Plutôt que de garantir des lendemains vivables à sa jeunesse, la France semble d'abord vouloir se donner les moyens de préparer la guerre. Après l'obsession militaire, place à l'obsession identitaire. Laurent Wauquiez, patron des députés LR, vient de déposer une proposition de loi pour interdire le voilement des mineurs dans l'espace public. Concrètement, il veut modifier la loi de 2010 sur la dissimulation du visage pour punir tout parent qui contraint ou autorise sa fille à porter le voile couvrant les cheveux avec une amende à la clé. Problème, plusieurs constitutionnalistes jugent que le texte est quasiment impossible à valider car il vise explicitement un signe religieux et ne repose pas plus sur un motif de sécurité publique comme la loi de 2010 le prévoit. En parallèle, au Sénat, un groupe de 29 élus LR propose d'interdire le voile aux mères accompagnatrices lors des sorties scolaires, le port du voile pour les filles de moins de 16 ans dans l'espace public et même le jeûne du ramadan pour les mineurs au nom d'une prétendue protection de leur enfance. Vous ne rêvez pas, pour LR, les policiers vont devoir demain vérifier si les jeunes font le ramadan ou non. Ils ont que ça à faire, c'est bien connu. Officiellement, LR disent défendre les principes républicains et lutter contre l'entrisme islamiste. Dans les faits, l'ensemble de ces mesures cible très clairement les musulmans et surtout les musulmanes, au risque de se heurter de plein fouet à la liberté de culte et à l'égalité devant la loi, à croire que les républicains ne sont pas très attachés à leur nom. Et pour terminer ce journal, une note un peu plus légère avec cette séquence bien lourde sur le voile, on part maintenant à Hawkins, chers auditeurs. Cette nuit, Stranger Things est revenue sur Netflix avec la saison 5, volume 1, première partie de l'ultime saison mise à horaire mondial coordonné. Chez nous en France, les 4 premiers épisodes arrivent à 2h du matin pile, histoire que tout le monde découvre en même temps les nouvelles galères de Eleven, Will, Mike et les autres de la bande. Netflix a prévu la série en 3 temps, le volume 1, épisode 1 à 4 qui est déjà dispo sur la plateforme, le volume 2 avec 3 nouveaux épisodes attendus pour le 26 décembre, et un épisode final XXL annoncé pour le 1er janvier 2026, toujours à 2h du matin. Stratégie assumée de la plateforme, éviter les spoilers, c'est transformer la sortie en vrai événement mondial, quitte à sacrifier quelques heures de sommeil aux fans. Si vous hésitez encore à veiller ou à mettre le réveil très tôt, on se met tout de suite dans l'ambiance avec la bande-annonce.
Ça va fonctionner.
Il y a plutôt intérêt, c'est pas comme si on attirait l'attention.
On a un plan. Il est un peu dingue.
Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ?
J'en suis pas sûr, mais je veux en avoir le cœur net. Tous pour un ? Je veux que Vecna souffle le martyr.
Écoutez Bac FM en streaming sur
le radio bacfm.fr.
Un problème technique, chers auditeurs. Voilà, j'espère que vous m'avez récupéré. Le tour de l'info, c'est fini pour aujourd'hui, mais ça revient dès demain à 13h. Dans quelques instants, je reçois le bureau Information Jeunesse ainsi que votre groupe préféré Copycat qui viennent nous parler de la soirée Consent and Love. Et juste après, c'est la dernière émission spéciale Droit de l'enfant. Mais d'abord, on s'écoute Skip the Use. À tout de suite sur Bac FM.